France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, sur le canal 27 de la TNT. Alors peut-être avez-vous vu hier soir la cérémonie des Golden Globes, antichambre des Oscars, un grand vainqueur, le pétillant La La Land, et une polémique, la comédienne Meryl Streep qui a fait un speech remarqué contre Donald Trump, et celui-ci lui a répondu via Twitter en la décrivant comme, Meryl Streep, hein, l'actrice la plus surcotée d'Hollywood. Bon, voilà. Et c'est pas faux, hein, parce que quand on voit les soutiens people de Donald Trump, comme Steven Seagal, Chuck Norris ou le catcheur Hulk Hogan, on se dit que Meryl Streep est vraiment très surcotée. Hein. Elle n'a jamais joué dans Portée disparue, ni le 1, ni le 5, ni dans Piège en haute mer, juste dans Sur la route de Madison, Out of Africa ou Manhattan. Hein, bon, ridicule. Quant à l'avoir sauté un jour de la troisième corde pour le coup du marteau pilon, là, personne. Hein. Donc c'est fini pour vous, Donald Trump est là, courage en tout cas. Et eux, ils ne surcotent en rien l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de Manuel Valls, Lumna Méliane, bonsoir.
Bonsoir.
Également Michel Urvois d'Ouest-France, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
L'humoriste Guillaume Meurice, bonsoir.
Bonsoir, moi je suis surcoté hein, par contre.
Oh, mais jamais Guillaume, pas du tout.
Ah, oui. C'est gentil.
Enfin, peut-être votre salaire, mais je ne sais pas encore.
On en parlera.
Voilà. Et Raphaël Saint-Ville de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, quatre débats fleuris d'actualité, plan anti-voiture, Anne Hidalgo passe la seconde. Plus facile de s'exiler fiscalement que de voler une chaise. Bachar el-Assad s'invite chez François Fillon. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. À chacun donc sa manière de se préparer. Dans trois jours, ce sera le premier débat de la belle alliance populaire. Et les dernières heures sont cruciales pour montrer ses forces. Benoît Hamon n'en finit plus de nous parler de revenu universel. Arnaud Montebourg, lors d'une rencontre avec les journalistes de Libération, eh bien a fait du Arnaud Montebourg avec des phrases étranges comme « Un pays sans artistes est un ciel sans étoiles ».
Oh.
Arnaud Montebourg, ou l'esprit de la marinière, c'est Barack Obama qui l'a lancé. Bon, ok. De son côté, Manuel Valls était hier à Liévin. Alors, un fief socialiste, ouvrier, rongé par le chômage dans une salle portant le nom de François Mitterrand. Si vous n'avez pas compris que Manuel Valls était à gauche, hein, on peut rien pour vous. Bon, alors, en tout cas, pour les plus obtus, eh ben, on vous en remet une petite couche, Manuel Valls.
La gauche, celle de François Mitterrand, qui vous allez rendre hommage encore cet après-midi, cher Patrick, à Lille. La gauche de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, de Lionel Jospin, de François Hollande. La gauche qui assume les responsabilités. Voulons-nous retourner pour longtemps, durablement, dans l'opposition, avec nos divisions, nos rancœurs, nos procès en trahison? Ah, certains, au fond, y aspirent. C'est plus confortable que d'assumer l'exercice du pouvoir dans des temps difficiles.
Voilà, Manuel Valls en meeting à Liévin. Alors, Lumna Méliane, c'est étonnant d'entendre quand même ça autant Manuel Valls dire la gauche, ça voudrait dire qu'il ne l'est pas et donc il veut le dire finalement
non,
derrière.
Non, il a toujours été de gauche, hein. C'est un adhérent du Parti Socialiste, ouais, depuis maintenant un certain nombre d'années, donc n'ayez aucun doute là-dessus. Non, c'est une campagne où il est au cœur de toutes les attaques, une campagne extrêmement difficile, mais c'est normal, hein, les campagnes c'est jamais évident. Mais c'est vrai qu'on est dans un cas de figure qui est complètement bouleversé, puisqu'au point de départ, la primaire a été préparée aux petits oignons pour François Hollande, donc c'est une primaire extrêmement courte, hein, une primaire XXS, et il faut convaincre rapidement. Et donc c'est vrai que l'exercice n'est pas simple, mais j'ai bon espoir. Il est convaincu. C'est le seul de toute façon qui en mesure, et il le dit très bien dans le discours qu'on vient d'entendre, au meeting de Liévin, c'est qu'il n'a pas peur d'exercer le pouvoir.
Ouais. Voilà. Alors Michel Urvois hier, c'était...
Attends, ça veut dire que les autres ont peur d'exercer le pouvoir?
Bah, c'est pas qu'ils ont peur, mais en tout cas, c'est le seul qui est le plus à même à exercer le pouvoir.
Mais pourquoi les autres,
de par son expérience, de par son expérience gouvernementale, de par son expérience ministre.
Il a déjà prouvé son incompétence une fois, alors c'est peut-être pour ça que les gens sont sceptiques.
Vous avez vu, Michel Urvois, ce matin, il répondait à une interview, Manuel Valls, dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, il dit « Je suis prêt pour mon deuxième quinquennat ». C'est presque un lapsus qu'il a fait, malgré lui. Mais on sent hier, donc en effet, d'être dans une salle portée François Mitterrand, Liévin, etc., on sent qu'il veut donner des signes de gauche.
Ben, bien sûr, mais au niveau du discours, il n'y a rien à dire. Toute sa difficulté, c'est de passer du statut de Premier ministre qu'il a été avec des décisions qui ne sont pas forcément très colorées à gauche, et son statut de candidat. Ça, s'il avait démissionné quelques mois avant, ou un an avant, c'était un exercice beaucoup plus facile. La deuxième difficulté, c'est de parler à un électorat de gauche qui est celui de la primaire, tout en tenant un discours, c'est-à-dire en ayant un projet présidentiel, il l'a dit dans une interview à West France également, un projet présidentiel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde en même temps.
C'est ça.
Et ce double grand écart est extrêmement périlleux pour lui.
Oui, Raphaël Saville a même dit ce matin, dans le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, j'ai changé. Ça nous rappelle quelqu'un, forcément, donc Nicolas Sarkozy. C'est quand même étonnant, c'est vrai, comme disait Michel Hourvoy, de changer aussi vite, non ?
Ça, c'est une certitude, mais moi, c'est une sermière, moi, c'est ce qui me surprend dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est que lorsqu'il parle de cette gauche de gouvernement, finalement, en creux, on comprend ce qu'il disait il y a encore quelques mois, qu'il y a une gauche, il y a deux gauches irréconciliables. Parce que il y a une gauche qui veut gouverner, qui est prêt à faire des compromis, qui est plus pragmatique, et une gauche qui finalement préfère aller dans le sens de la facilité et en demande toujours plus dans les 32 heures, dans les et donc voilà, d'une certaine manière, quand bien même il voudrait faire oublier ce qu'il était il y a peu, ça se dessine en creux dans ce qu'il dit encore aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, finalement, la difficulté aujourd'hui de Manuel Valls. C'est de dire, quand il dit « j'ai changé », c'est compliqué parce qu'il y a un mois encore, il était Premier ministre, vous voyez.
Oui, bien sûr qu'il était Premier ministre il y a encore un mois, mais ce n'était pas lui, je veux dire, il est Premier ministre. Hein, vous savez tous comment fonctionnent ici ouais. les institutions.
On essaie.
J'ai l'impression qu'il faut le répéter à chaque fois, mais c'est le président qui ordonne et c'est le Premier ministre qui exécute.
Il est responsable de rien.
Alors, laissez-moi terminer, parce que j'ai pas fini ma phrase.
Allez-y,
il doit bien évidemment prendre sa part de responsabilité en tant que dirigeant politique. Et ce que j'apprécie, moi, c'est chez Manuel Valls, c'est le fait d'être capable de dire, bah là, on s'est trompé. Je veux dire, c'est quand même, c'est pas une posture évidente de dire, bah là, on s'est trompé. Écoutez, comme on s'est trompé, on va revenir. Revenons par exemple sur le débat des heures défiscalisées. C'est 9 millions de Français qui touchaient
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir dans un instant. Mais non, on va y revenir sur ce débat, ne vous inquiétez pas. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Au moins 1500 militants écologistes de la gauche dans les rues de Dax pour soutenir John Palais, le militant altermondialiste comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour avoir volé des chaises dans une agence parisienne de la BNP en octobre 2015. Il voulait ainsi dénoncer des faits de fraude et d'évasion fiscale de la banque. Le jugement a été mis en délibéré. La carte des 7500 bureaux de vote de la primaire mise en ligne depuis quelques minutes par le Parti Socialiste en métropole et en Outre-mer, 7500 bureaux de vote. C'est 2000 de moins qu'il y a 5 ans et 3000 de moins que pour la primaire de la droite en novembre. Le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier prochains. La CFDT va signer. Le nouvel accord de compétitivité entrera bien en vigueur chez Renault. Au moins 3 des 4 organisations syndicales de l'entreprise devaient donner leur accord pour recueillir une majorité de suffrages. C'est chose faite. Avec ce projet, Renault compte augmenter la productivité et la flexibilité de ses usines françaises en échange notamment d'augmentation salariale et de 3600 embauches. La cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque de l'hypercacher ce soir, porte de Versailles à Paris. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a présidé la cérémonie avec les familles de victimes. L'attaque de l'épicerie juive avait fait 4 morts le 9 janvier 2015. Un nouvel épisode de pollution en particules fines dans le Haut-Rhin. Information de nos confrères de France 3 Alsace. Il est conseillé aux personnes sensibles de limiter les efforts physiques et les déplacements sur les grands axes routiers.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, hein, ça y est, nous y sommes. Voilà, parce qu'il faut faire monter un peu la sauce, hein, c'est comme ça dans les médias. Ça a 3 jours du premier tour, du premier débat de la belle alliance populaire. Hier, Manuel Valls était en meeting à Liévin. Guillaume Meurice, ce meeting justement à Liévin, c'est un fief ouvrier. Est-ce que pour vous, ça colle avec Manuel Valls?
Ça, en matière d'humour, oui. Non, mais c'est une vaste opération de communication, mais comme le discours, on en parlait tout à l'heure avant la pause, mais j'ai changé, enfin c'est une vaste opération de foutage de gueule, comme tout ce qui est une opération de communication. C'est-à-dire que le mec, ça fait même pas 3 semaines qu'il est sorti du gouvernement, il dit « Ah ouais, désolé les mecs, j'ai merdé. Non, j'ai fait n'importe quoi, je vous promets, refaites-moi confiance, et là ça va aller mieux, je crois que personne n'y croit. Je crois que même malheureusement, ça décrédibilise même l'ensemble de la politique en général, et voilà, les gens ne vont plus aller voter, etc. etc. Quoi,
c'est... Ce qui décrédibilise quand même la politique, c'est ce genre de propos. Je veux dire, prenons les choses un peu au sérieux.
C'est intéressant,
tu vois. Non, non, vraiment, sérieusement. Je veux dire, Manuel Valls a été Premier ministre. Il prend sa part de responsabilité puisqu'il a été le garant d'une espèce de cohésion d'équipe gouvernementale, ce qui n'a pas été toujours évident.
Mais
je crois qu'on doit respecter le travail des uns et des autres. Et quand on tire sur Manuel Valls...
Mais je tire sur personne, c'est la réalité.
Non, non, quand on tire sur Manuel Valls, c'est aussi une façon de faire perdre la gauche.
Mais Manuel Valls, il a arrêté d'être de gauche il y a des années.
En tant que journaliste, de dire, écoutez, c'est sérieux la politique.
Mais évidemment, c'est sérieux. C'est vous qui la décrédibilisez.
Non, je la décrédibilise.
C'est vous qui en faites une vaste blague. C'est
quand vous voyez qu'il y a 200 personnes qui sont venues, vous en attendiez le double. Est-ce que finalement, il n'y a pas un petit problème, justement, là, quand on dit il y a un petit trou d'air pour Manuel Valls? Est-ce que finalement, il ne colle pas?
Je vous ai expliqué, la campagne est courte, extrêmement courte. C'est difficile de mobiliser. Vous voyez, la primaire de droite, elle a duré quand même sur plusieurs mois. Je veux dire, cette campagne, cette primaire, elle a été mise en place pour que ça aille le plus rapidement possible pour François Hollande. Il s'avère que ce n'est pas lui qui est candidat à l'élection présidentielle et qu'il faut qu'on aille très vite et qu'on arrive à convaincre très vite. Donc oui, c'est une campagne difficile. C'est pour ça qu'on joue le jeu et qu'on vient aujourd'hui essayer d'expliquer ce qui nous anime et ce qui nous porte. Oui, c'est pas facile, mais il faut le faire, c'est normal.
Mais c'est bien, vous êtes courageuse.
Mais voilà,
moi, j'aime bien les causes désespérées, donc ça me touche.
Je pense que le débat va permettre aussi de déclencher quelque chose, mais on ne peut pas se contenter du débat. Nous, on fait le travail sur le terrain. Les copains sont mobilisés, les camarades vont faire du porte-à-porte, essayent de mobiliser, et c'est vrai que ce n'est pas évident.
Je ne sais pas si les copains et les camarades sont en tout cas tous confiants, mais pour illustrer ce que disait à sa manière Guillaume Meurice tout à l'heure, l'histoire du 49-3, c'est la parfaite illustration de cette tentative par la communication d'effaire oublier ce qu'on a pratiqué avant pour dire « je ferai mieux la prochaine fois ». On risque d'en avoir l'illustration. Manuel Valls vient à Rennes lundi. Rennes, ça a été un petit peu chaud pendant la loi travail.
Pendant la loi travail, exactement.
Il y a quelques vitrines et quelques banques qui s'en souviennent.
Et la maire soutient Manuel Valls.
La maire soutient Manuel Valls, mais en étant contre le 49-3. Donc,
peut-être il y a un demande au meeting, mais peut-être plus pour lui rappeler ce qu'il a fait.
Ce que je veux dire, c'est qu'il risque là d'y avoir un retour aux réalités. Je souhaite pour lui que ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, ça risque d'être dramatique pour le Parti Socialiste, pour la primaire.
Ce qui est quand même particulièrement cruel pour Manuel Valls en ce moment, c'est que dans le même temps, il est en meeting dans le Nord. À quelques kilomètres, Jean-Luc Mélenchon tient également meeting et il remplit des salles 5 fois plus importantes. Et Emmanuel Macron, qui n'a pourtant pas de parti structuré comme le Parti Socialiste, arrive dans le même temps dans la Nièvre,
à Clermont-Ferrand,
à remplir également des salles. À Paris, c'était 12 000 personnes. Donc, on a l'impression que les militants se sont partiellement, voire même davantage, détournés du Parti Socialiste et des candidats, même de ceux qui sont le plus crédibles pour incarner la gauche à la présidentielle. Mmh. C'est ça qui est terrible pour notamment Manuel Valls.
Cette campagne, alors j'entends le 49-3, il a changé, il n'a pas changé, mais en fait moi je crois que cette campagne, le cœur de cette campagne, c'est la question des valeurs. Et c'est important d'aborder le bilan, est-ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on n'a pas fait de bien, mais moi ce qui me motive derrière la candidature de Manuel Valls, c'est la question des valeurs. Moi, je suis une militante, j'ai grandi dans une cité de province. Je n'ai pas appris le militantisme à travers les livres. Hein. Je me suis pris en pleine gueule ma réalité de jeune femme issue d'un quartier populaire. Et je trouve que sur la question du féminisme,
c'est
la laïcité. J'allais venir sur la question de la laïcité, bien évidemment. Mmh. C'est le seul rempart, c'est le seul bouclier, c'est le seul qui a une ligne c'est le seul qui a une ligne claire sur cette question. En tout cas, il n'y aura pas de débat. Le principe
de laïcité offensive, d'ailleurs, après ce propos.
C'est un bouclier, ça protège. Oui. C'est un bouclier. Mmh. Nous, on ne parle pas de laïcité offensive. La laïcité, c'est le vivre ensemble. Ça permet à chacun et à chacune de pouvoir vivre collectivement dans l'espace public. Et là-dessus, il ne lâchera rien. Donc, pour moi, c'est la colonne vertébrale. C'est la question des valeurs qui prime sur tout le reste. Vraiment.
Non, mais on entend bien que la laïcité, c'est quelque chose de fondamental dans notre société et dans notre histoire. Mais ce qu'attendent les gens, c'est des réponses ambitieuses en matière d'emploi, en matière de fiscalité, en matière de sécurité.
Leur vie quotidienne, en fait. Leur vie quotidienne, c'est pas le burkini, en fait.
Seriez extrêmement surpris de constater que les Français, les questions, le chômage, l'économie, en effet, ils sont touchés de plein fouet. Mais c'est pas ça qui prime. Quand ils viennent vous voir, ils ont envie de parler avec vous.
Vous parlez pas avec beaucoup de Français.
Je suis
désolé. Ils ont plus rien à bouffer dans leur frigo. Ils viennent pas parler de laïcité. Ils vont pas dire, je suis choqué par les femmes voilées.
Pas tous ensemble. ma génération veut parler de république. Voilà. Et je trouve que ce slogan, la république forte, c'est un slogan extrêmement important.
La réalité, c'est que dans cette campagne, que ce soit Manuel Valls, que ce soit Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et les autres, parlent beaucoup moins de leur programme, de leurs idées, de leur même éventuelle innovation programmatique que de François Fillon, comme s'ils voulaient faire oublier, mais tous, qu'ils ont été au gouvernement, qu'ils sont comptables de nombreux échecs. Et c'est ça qui est un petit peu sidérant dans ce qu'on... Alors, les débats qui vont arriver, les débats télévisés vont peut-être permettre une confrontation d'idées, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a très peu d'idées sur la table, très peu d'idées nouvelles sur la table.
Voilà, juste une chose, parce qu'après on va passer à François Fillon, mais une chose, justement, Michel Urvois, aujourd'hui, il y a un revenant hein, qui est apparu sur des antennes, dans les papiers, c'est Aquilino Morel qui a sorti un livre, alors qu'il s'est trompé un peu hein, de communication, puisque lui misait tout sur François Hollande, malheureusement, bon, voilà, il ne s'est pas présenté. Est-ce que c'est pas un peu, il y a un côté pathétique, non? Pourquoi j'en parle? Parce que François Hollande est un genre littéraire à lui tout seul. Hein, parce que c'est vrai qu'on l'a vu.
Oui, je pense que s'il y avait eu un plan de relance pour effectivement l'édition, je pense que François Hollande était le meilleur support. Mais non, Aquilino Morel, c'est pathétique parce que là, ça fait vraiment revanche, ça fait vraiment acharnement. Dans le peu que j'ai pu lire du livre, bon. On n'apprend pas grand-chose, on revient sur des aspects de la vie privée qui n'ont pas leur place là. Et puis surtout, quand on s'appelle Aquilino Morel, qu'on n'a même pas été capable de gagner une seule élection, qu'on a toujours été borderline entre sa fonction publique et ses affaires privées, je pense que donner des leçons, même si ça n'est pas tout à fait le ton du livre, mais ça revient à ça, donner des leçons, c'est peut-être pas la meilleure méthode...
Voilà. En fait, c'est un mec qui a des frais, hein. Il a besoin d'un peu de pognon. On sait qu'il c'est un mec qui aime avoir des chaussures bien cirées, donc il a besoin d'un peu de cash.
C'est toujours le problème.
On peut lui reprocher. Surtout il a certainement un bel avaloir de la part de son éditeur.
Il pose une question qui est intéressante. C'est le rapport de François Hollande à sa fonction, à la présidence, et peut-être. Enfin voilà, une vraie question.
Une vraie question. C'est vrai. Non, c'est vrai, Michel. Vous avez raison. Allez, on va passer de l'autre côté de l'échiquier politique dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Nouvelle mobilisation des salariés de Fessenheim demain matin. L'intersyndicale les appelle à manifester contre la fermeture anticipée de la centrale nucléaire, alors que se tiendra au même moment un comité central d'entreprise en région parisienne. Les syndicats dénoncent notamment le montant de l'indemnisation que l'État doit verser à EDF au moment de la fermeture prévue en 2018. 17 personnes au total interpellées 3 mois après le violent braquage de la star américaine Kim Kardashian. Vaste coup de filet à Paris et dans le sud de la France ce matin. 14 hommes et 3 femmes. Les braqueurs feraient partie des suspects interpellés, selon France Info. Avec un butin estimé à 9 millions d'euros, ce braquage est le plus important vol de bijoux sur un particulier en France depuis plus de 20 ans. 7 policiers et un passant tués ce matin dans une attaque à la voiture piégée dans le Sinaï, dans l'est de l'Égypte. Le véhicule visait un barrage de sécurité. La police a ouvert le feu et l'explosion a eu lieu avant que les terroristes n'atteignent leur objectif. Les 5 assaillants sont morts. Une attaque non revendiquée pour l'instant. La ligne B du métro partiellement interrompue à Toulouse après une rupture de canalisation. La station Saint-Agne est sous l'eau, les dégâts sont importants. La circulation du métro devrait reprendre sur l'ensemble de la ligne après-demain, à l'exception de cette station. Et puis un nouveau trophée après le Ballon d'Or, le Portugais Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur de l'année 2016 par la FIFA. L'attaquant de 31 ans est récompensé pour sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid et à l'Euro avec sa sélection.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Loumna Méliane, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de Manuel Valls, également Michel Urvois de Ouest-France, humoriste Guillaume Meurice et Raphaël Snaville de Valeurs Actuelles. Alors une actualité chargée qui nous en révèle beaucoup sur un candidat en ce moment, c'est François Fillon. On avait parlé ici de la gueule de bois post Las Vegas, hein, possible pour François Fillon, parti visiter le salon de technologie CES et la phrase qui a beaucoup fait rire ce week-end, c'est celle-ci relevée par l'émission Quotidien.
Qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires? Et qui s'opposait à cette réforme? La gauche.
Voilà. Oui, Emmanuel Macron, c'est du blabla.
Non, mais bah, on verra. Peut-être qu'il fera des choses, mais pour l'instant, j'ai pas vu.
Voilà, François Fillon, donc, à Las Vegas. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup fait rire, Guillaume Meurice, mais une nouvelle fois, il en profite sur les fonctionnaires, là.
Ah oui, bah jusqu'au bout, ouais. C'est sa stratégie à lui, quoi, c'est de taper sur les fonctionnaires. C'est une stratégie qui marche bien à droite. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours le « oh là là, ils sont payés à rien foutre », etc. Sauf qu'on oublie que les fonctionnaires, c'est évidemment le mec qui va vous ramasser dans la rue si vous vous pétez la gueule, c'est l'infirmière qui va vous soigner, c'est l'institut qui s'occupe de vos enfants, et puis c'est des gens qui font de la République, quoi.
Raphaël Sadi, c'est vrai que là, quand on a vu cette phrase qui a fait rire sur « c'est limite si j'ai créé Internet en France, si j'ai pas lancé Internet en France », on sent François Fillon, c'est pas forcément le roi de l'impro.
Non, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que sur les questions de numérique, de nouvelles technologies, il a rien à envier à Emmanuel Macron. Après, ce qui est révélateur dans cette séquence, c'est que quand bien même il s'en défend, Emmanuel Macron commence à poser un problème à la droite et devient une obsession, si ce n'est pour François Fillon, pour tout l'entourage de François Fillon, qui ont du mal avec le phénomène Macron. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est pas une bulle? Certains disent qu'il parle pas, c'est une langue étrangère pour eux. On voit très bien qu'ils sont face à une difficulté, et c'est vrai que c'est une nouveauté pour la droite. Ça, peut-être que la droite va avoir face à elle un candidat de centre-gauche plus important que le candidat du Parti Socialiste.
Oui, Mme Niane, c'est vrai qu'on a souvent dit Emmanuel Macron, problème pour la gauche. D'après vous, ça peut être également un problème pour la droite ?
Oui, parce que de toute façon, il y a des chances qui débordent également sur la droite. Mais pour revenir sur sur les propos de François Fillon sur les télécoms, je pense que c'est les salariés de France Télécom qui ont pas dû vraiment apprécier la transformation en France Télécom Orange a quand même créé une certaine pression sur les salariés. Mmh. Il y a eu de grandes difficultés, il y a eu des suicides. Donc c'est pas une période glorieuse en termes de transition, mais en effet, il y a de quoi s'inquiéter sur la casse des emplois des fonctionnaires qui sont celles et ceux dans les quartiers les plus en difficulté qui restent le dernier rempart républicain, c'est le cas de le dire. Donc c'est vrai que on a de fortes inquiétudes à ce niveau-là.
Alors, oui, ce que je trouve intéressant, c'est pas une approbation, mais intéressant dans le propos de François Fillon, c'est que il joue sur deux tableaux. Il est à Las Vegas, il est à ce salon high-tech. C'est un geek, François Fillon. Ouais. Tout le monde sait, enfin, le dernier iPhone, la dernière tablette, le dernier appareil photo, il pilote des drones, etc. Enfin, voilà. Et donc il appuie sur son côté moderne dans un endroit qui est le symbole de cette modernité, et il tape sur les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il joue sur à la fois son électorat traditionnel et sur le côté jeune moderne du candidat.
Mais c'est vrai que jeune moderne, quand on parle de François Fillon, c'est vrai ça que c'est pas un procès. Voilà, c'est pas un procès.
Non, mais moderne, ça, mais moderne
vrai,
en tout cas.
Parce que c'est vrai que
c'est pas un vieillard. Quand même,
ah non, bien sûr. Non, mais jusqu'à présent, c'est vrai que c'est pour ça que le journaliste de Quotidien lui pose la question, parce qu'Emmanuel Macron y allait tout le temps à ce salon, sauf cette année d'ailleurs. Donc y aller, c'est un signe. C'est vrai qu'on peut le comparer justement. Est-ce qu'il serait inquiet à votre avis par rapport à Emmanuel Macron?
Alors ça, voilà.
Mais de toute façon, c'est forcément qu'ils sont inquiets, parce que de toute façon, ils n'avaient pas prévu que François Hollande ne serait pas candidat à l'élection présidentielle.
Mais ça, tout le monde est inquiet.
A été faite pour affronter François Hollande, mais pas un autre candidat. Donc, ils ont de quoi être inquiets, en effet, à droite.
Je pense que tout le monde est inquiet du phénomène Macron. Et la droite est inquiète, surtout si le sort de l'issue de la primaire de la gauche, c'était un Arnaud Montebourg ou un Benoît Hamon. Mmh. Parce que s'il se retrouve avec Emmanuel Macron qui a un boulevard, ça va être très compliqué aussi pour François Fillon. Donc je pense que tout ça est en fait très lié, et c'est la raison pour laquelle François Fillon regarde de très près l'issue de la primaire.
Guillaume Meurice, vous, quand vous voyez justement Emmanuel Macron évoluer à côté, sur les à côté de la politique, un petit peu comme fait aussi Jean-Luc Mélenchon, enfin, ce sont deux candidats qui ne pensent pas du tout la même chose, mais ils ont les mêmes tactiques. On a l'impression ils évoluent dans des médias différents. Ils font pas trop, des gros médias, ils ne les font pas trop, ils privilégient Internet, ils font des meetings qui marchent.
Il y en a un qui est plus crédible dans la tactique anti-système que l'autre, quand même. Quand on sort de la banque Rothschild et qu'on se déclare le candidat anti-système, c'est un petit peu plus difficile. En même temps, Mélenchon, il a été sénateur aussi, il en vient, mais il en est sorti.
Dans les reportages que vous faites pour France Inter, vous l'aviez rencontré, Emmanuel Macron, est-ce que vous l'avez croisé
Je l'ai croisé quelques fois, je l'ai interrogé quelques fois. Et sur le prix de son costard, tiens, notamment. La dernière fois, c'était sur le prix de son costard, juste après la fameuse affaire Il a répondu 400 euros, je crois.
400 euros, d'accord. Ouais, ouais. Et justement, vous...
Mais c'est pareil, c'est de la communication. C'est un très bon communicant.
Mais il faut passer du temps avec lui. Il faut discuter pendant une heure ou deux
avec lui. Si on me paye une prime de pénibilité.
Avec lui et avec les autres, d'ailleurs. Non, attendez, si on fait le débat sur le prix du costard, moi, je me retire. Je ne fais plus politique.
Le problème, dit, non, c'est pas juste pour finir. C'est un super communicant. On est incapable de dire une idée, là, d'Emmanuel Macron.
Qu'est-ce que vous... On en sait rien. C'est le candidat du bonheur.
Il a passé une heure et demie à faire du vent et de crier comme un putois à la fin. C'est tout ce qu'on a retenu, mais hein, personne ne sait sortir une idée. C'est dramatique en fait ce qui se passe. C'est que de la com en fait.
Je vous inviterai quand il y aura un représentant d'En Marche en tout cas
dans la mission. Ils sont très gentils.
Allez, la suite s'informer de France Info. On parlera faucheur de chaises, on parlera pollution, on parlera également un petit peu de Bachar et la Sade. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Et là, Jules m'a dit...
Papa, t'es pas très mode.
Oh, et t'as fait quoi ? J'ai acheté une voiture.
Mais non.
Si, un Mini Clubman.
Et alors ?
Alors il a dit, je peux être à la mode comme toi, papa ?
Mini Clubman, la compacte familiale pour les pères qui ont du style. Découvrez l'édition Hyde Park avec notamment GPS, écran 6,5 pouces, affichage tête haute et toit ouvrant. À partir de 340 euros par mois, 36 mois, sans apport, entretien inclus.
Méné.
Exemple pour un Mini Clubman 116 chevaux en location longue durée, valable jusqu'au 31 mars 2017. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr.
France Info Météo avec Teva, laboratoire de médicaments innovants et deux services pour aider les patients à mieux contrôler leur santé. À retrouver sur teva-laboratoire.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un temps perturbé, les pluies se décalent vers le sud et l'est du pays. Attention cette nuit, quelques pluies verglaçantes possibles sur le nord-est. Demain matin, il pleuvra du sud-ouest vers le massif central, le nord-est, le nord des Alpes. On aura de la neige en montagne, parfois même jusqu'en plaine sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté. L'après-midi, les pluies s'espaceront, la neige remontera autour de 400-600 mètres. Près des Pyrénées, encore de bonnes pluies, de la neige en abondance au-dessus de 1000 mètres. On pourrait atteindre les 80 cm d'ici la fin de la journée. Ailleurs, ce sera bien encombré, quelques éclaircies. Tout de même, un risque d'averse. En Méditerranée, un peu plus d'éclaircies, de la tramontane jusqu'à 90 km à l'heure et des averses pour la côte d'Azur et l'est de la Corse. Petite hausse pour le thermomètre, juste quelques gelées dans l'est et le sud le matin. L'après-midi, 3 degrés à Strasbourg, 4 à Metz et à Lyon, 8 degrés à Paris, à Toulouse, à Marseille, 11 à Cherbourg et Bayonne et encore 14 à Ajaccio.
Une escapade estivale au cœur de l'hiver? Partez en Afrique du Sud à partir de 499 euros par personne avec Etihad Airways. Réservation southafrica.net. Afrique du Sud, retrouvez l'inspiration.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'auteur présumé de la tuerie de Fort Lauderdale en Floride, vendredi, a comparu aujourd'hui devant un tribunal fédéral. La fusillade a fait 5 morts dans l'aéroport. L'homme a avoué avoir planifié l'attaque. Les enquêteurs n'excluent pas la piste terroriste, mais ils s'interrogent surtout sur la santé mentale du tireur qui avait des antécédents psychiatriques. Paris se souvient des attentats de janvier 2015, 2 ans après la prise d'otages meurtrière du supermarché Hypercacher, porte de Vincennes. Une cérémonie avait lieu ce soir. Montrouge a aussi rendu un peu plus tôt dans la journée hommage à sa policière tuée par Amélie Coulibaly. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied d'une plaque dévoilée à la mémoire de la jeune femme avant une sonnerie aux morts, une minute de silence et une Marseillaise. Istanbul paralysé par la neige pour la 3e journée consécutive, des centaines de vols annulés. Plus de 10 000 voyageurs ont été logés dans des hôtels. Le trafic sur le Bosphore a à nouveau été complètement interrompu aujourd'hui. Et pourtant, 2016 restera comme l'année la plus chaude, en tout cas dans l'Hexagone. Plus 0,5 degrés par rapport à la normale. Météo France a présenté son bilan pour 2016, l'an dernier donc. L'année n'est pas exceptionnelle puisqu'elle ne se classe qu'au 10e rang des années les plus chaudes depuis que les relevés existent. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant que le réchauffement climatique n'est pas à l'œuvre à Norbaral.
2016 n'atteindra pas le record de 2014 où il a fait 1,2 degré de plus que la norme. Mais le mois de septembre a quand même battu des records de chaleur. Malgré les inondations très importantes de début juin dans le bassin de la Seine, le Loing par exemple a connu sa crue centennale et les habitants de Nemours et de Soupe-sur-Loing s'en souviennent encore. 2016 a aussi connu des records de sécheresse et de déficit de pluviométrie. Les mois d'août et de décembre sont les plus secs enregistrés depuis 1956. Les stations de ski des Alpes ont souffert d'une absence absence de neige majeure au mois de décembre pour démarrer leur saison touristique. 50 jours sans précipitation par endroit. Et même si la France n'a pas battu des records de température en 2016 sur le plan mondial, les experts américains de l'Agence atmosphérique et océanique regardent ce qui se passe sur d'autres points du globe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie ou en Arctique, avec des températures parfois de 20 degrés au-dessus des normes. Sur le plan mondial, 2016 devrait donc bien se classer parmi les années les plus chaudes depuis 1880.
Anne-Laure Barral, l'Iran entame un deuil national de 3 jours après le décès de l'ex-président Akbar Hashemi Rafsanjani, pilier de la République islamique. Ses obsèques auront lieu demain mardi à Téhéran. Et puis l'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, sacré meilleur entraîneur par la FIFA pour 2016 grâce à son titre de champion d'Angleterre qu'il a décroché à la surprise générale la saison passée avec son club. Sans surprise, cette fois, le quadruple ballon d'or Cristiano Ronaldo, champion d'Europe avec le Portugal, a lui remporté le prix FIFA du meilleur joueur de l'année. La suite des informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils attaquent fort la semaine en organisant une boum avec l'actualité sous le haut patronage des informés de France Info. Et ce soir, autour de la table, nous trouvons Loubna Méliane, conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de Manuel Valls, Michel Urvois de Ouest-France, l'humoriste Guillaume Meurice et également Raphaël Saint-Ville de Valeurs Actuelles. Nous parlions de François Fillon juste avant le journal. On va juste en parler un tout petit peu car il y a eu une autre déclaration à son propos qui est beaucoup moins cocasse que celle sur Internet et beaucoup, beaucoup plus cynique. C'est celle de Bachar el-Assad. Quand on lui demande si l'élection de François Fillon favorable au dialogue avec le régime syrien changerait quelque chose au conflit, voilà ce que Bachar el-Assad a répondu.
Son discours sur les terroristes, sa priorité de combattre les terroristes et ne pas s'immiscer dans les affaires des autres pays sont les bienvenus. Mais nous devons être prudents parce que ce que nous avons appris dans cette région ces dernières années, c'est que beaucoup de responsables disent des choses et font le contraire. Je ne veux pas dire que M. Fillon ferait ça, j'espère que non, mais nous devons attendre et voir car nous n'avons pas de contact. Mais ce qu'il a dit jusqu'à présent, s'il le fait, ce serait très bien.
Voilà, Bachar el-Assad ce week-end donc à Damas. Michel, quand on entend ça, c'est vrai que depuis le début, depuis finalement sa victoire à la primaire de la droite, on sent que les positions de François Fillon au niveau diplomatique coincent aujourd'hui au sein de son propre camp quand même.
C'est compliqué d'être solidaire d'actions qui ont fait mourir des civils par centaines, par milliers. Enfin, mais ils ont des intérêts communs. Bachar el-Assad, Vladimir Poutine et François Fillon, s'il était président. L'intérêt commun, c'est essentiellement, c'est des gens qui aiment la stabilité, surtout quand elle leur profite. Mmh. Et l'intérêt commun, c'est de combattre le terrorisme et de protéger les chrétiens d'Orient. Ça fait des mois, des années que François Fillon mène un combat là-dessus. Et donc, il est parfaitement cohérent. Après, l'actualité récente, effectivement, ne le sert pas. Exactement. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais on voit bien. Je pense qu'il y a un principe de réalité aussi, et que Bachar el-Assad est en train de sortir vainqueur de cet épisode dramatique, et Vladimir Poutine aussi, bien sûr. Et donc, François Fillon, qu'est-ce qu'il ferait? Il s'adresserait à ceux dont ils considèrent qu'ils ont la légitimité. Ils ont prononcé la même phrase, François Fillon et Bachar el-Assad, à quelques semaines d'écart. François Fillon avait dit au débat de la primaire, dont on parlait tout à l'heure, qu'il avait le peuple avec lui. Bachar el-Assad, hier, a répété cette phrase.
Il avait le peuple aussi. Raphaël Saint-Ville, c'est vrai que autant François Fillon peut appeler au dialogue en Syrie, autant il n'a pas du tout soutenu l'initiative de Thierry Mariani, qui est parti avec trois. Alors, c'est pour ça que c'est là où c'est un peu compliqué. D'un côté aussi, la personne qui parle des affaires étrangères pour la campagne, c'est Bruno Le Maire, qui a une autre vision également sur la Syrie. On a l'impression que ça va être difficile de s'entendre quand même à droite là-dessus pour avoir une vision claire.
Thierry Mariani, Jean Lassalle et Nicolas Dhuicq qui sont partis en Syrie ont toujours fonctionné comme ça. Mais rien, moi je vais vous dire, je trouve ça plutôt bien que des parlementaires, quel que soit le contexte, quelle que soit la personne, puissent maintenir un dialogue.
Ça sert à quoi? Ça fait un peu idiotique, non?
Mais aujourd'hui l'adversaire de la France c'est pas la Syrie, c'est pas Bachar el-Assad, c'est effectivement l'État islamique qu'il faut combattre. Et pour partie, la solution au problème, c'est Bachar el-Assad. Après que François Fillon prenne ses distances avec ce type d'aventure, parce que bien évidemment, pour Bachar el-Assad, il y a une volonté de récupérer, d'instrumentaliser la présence de ses parlementaires. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est la vocation de la France de pouvoir parler avec tout le monde. On l'a fait avec Kadhafi, et quand bien même on se bouchait le nez quand c'était nécessaire. Mais il faut pouvoir le faire avec tous.
Lubna Meyen, quand vous voyez ces trois parlementaires, François Fillon ou Bachar el-Assad, là, on sent que voilà, il y a quelque chose qui est peut-être en train de bouger. Mais c'est vrai que la position de François Fillon diplomatiquement, plutôt vers Vladimir Poutine, plutôt vers Bachar el-Assad, c'est va complètement. Alors,
là, pour le coup, il n'a pas dit clair. C'est Bachar el-Assad
qui intervient sur Fillon.
Il est pour le dialogue. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de s'en prendre à Monsieur Fillon. J'ai un respect républicain pour Monsieur Fillon, même si je suis en désaccord politiquement avec lui. Mais je n'ai aucun respect pour Bachar el-Assad. C'est un dictateur. Ce qu'il raconte n'a aucun sens pour moi. C'est un manipulateur. Donc, je ne prête pas attention à ce genre de propos, surtout venant de la part d'un dictateur. Après, oui, il faudra qu'à droite, ils se mettent d'accord sur la situation en Syrie. Moi, j'aurais juste envie de dire une chose. Excusez-moi la vulgarité. Moi, je dirais qu'une seule chose, c'est à Bachar el-Assad de fermer sa gueule et surtout d'arrêter d'exécuter son propre peuple. Il n'a pas de leçon à nous donner. Vraiment pas.
Non, mais une fois que vous avez dit ça, reste que Alep et un certain nombre de villes qui ont été libérées ou qui ne l'ont pas été sont toujours en prise avec l'État islamique. Donc c'est bien à peu de frais, vous donnez bonne conscience, vous avez craché sur la gueule de Bachar, mais le problème est toujours le même. Donc,
à mourir sous les balles de Bachar el-Assad ou mourir sous les balles de l'État islamique, à mon avis, une fois que tu es
mort. Aujourd'hui, la priorité, est-ce qu'on peut s'entendre sur la priorité des priorités qui est faire en sorte que l'État islamique.
La priorité des priorités, c'est déjà de ne pas massacrer son propre peuple.
Non, mais ça c'est déjà logique.
C'est vrai que le droit guignol, il se fait mousser en rencontrant un dictateur. Et que ça fasse la une des journaux français.
Moi, j'ai aucun respect pour les dictateurs. C'est tout.
Non, mais c'est comme c'est facile de refuser l'existence de Bachar el-Assad, mais par qui le remplacerait-on? Enfin, je veux dire.
Mais c'est pas à nous de décider ça.
On a voulu pas tous ensemble.
Non, mais je reviens à cette idée de principe de réalité. Je pense qu'on peut être contre Bachar el-Assad et reconnaître que c'est aujourd'hui le vainqueur de cet épisode-là, et que s'il y a à discuter dans les semaines.
C'est lui ou Vladimir Poutine, Michel?
Enfin, c'est les deux. Bien sûr. Mais enfin, je veux dire, je reprends pas mon propos.
Ils ont
des intérêts communs. Donc voilà.
Donc, si on a discuté avec Bachar el-Assad, on se met autour d'une table et on dit quoi concrètement?
C'est le problème des bons sentiments et du droit de l'homisme. C'est-à-dire qu'on a voulu apporter la démocratie en Libye, on en voit le résultat. On a voulu faire la même chose en Syrie. Finalement on a préféré rester chez nous parce qu'on était tout seul et que les États-Unis ne voulaient pas nous soutenir.
Donc ils ont rien à foutre en Syrie, ces parlementaires. On peut se le dire.
Non,
c'est un géant.
Voilà, ils ont pas grand-chose à faire.
On n'a pas de solution politique de remplacement.
Allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Selon les dernières informations de France Bleu Nord, il aurait été étranglé à Vendin-le-Vielle dans le Pas-de-Calais. Un détenu a été tué cet après-midi par deux de ses co-détenus. Le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vielle, un établissement de haute sécurité, accueille des détenus violents et condamnés à de lourdes peines. Il a été ouvert en 2015 et déjà plusieurs incidents, dont deux prises d'otages. Le procès des faucheurs de chaises mis en délibéré au 23 janvier. Le basque John Palais est accusé d'avoir volé les sièges d'une agence parisienne de la BNP Paribas. Il risque jusqu'à 5 ans de prison pour cet acte militant. En dérobant ses chaises, John Palais entendait dénoncer des faits de fraude et d'évasion fiscale de la part de la banque. Le procureur a demandé l'annulation pure et simple de la procédure. La CFDT va signer le nouvel accord de compétitivité, entrera bien en vigueur chez Renault. Au moins 3 des 4 organisations syndicales de l'entreprise devaient donner leur accord pour recueillir une majorité de suffrages. C'est donc chose faite. Avec ce projet, Renault compte augmenter la productivité et la flexibilité de ses usines françaises, en échange notamment d'augmentation salariale et de 3 600 embauche. Tous les ans, à la même époque, c'est quasiment le même scénario. La ville d'Istanbul, paralysée par la neige, un épais manteau recouvre depuis 3 jours la capitale économique de la Turquie. Des centaines de vols ont été annulés, des milliers de voyageurs sont bloqués en Turquie. Le trafic sur le Bosphore, l'un des détroits les plus empruntés au monde, a été complètement interrompu par les gardes-côtes aujourd'hui.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va parler maintenant confort et design, puisqu'aujourd'hui on a découvert que le pire ennemi de la BNP, ce ne sont pas les clients à découvert, mais les faucheurs de chaises. Et oui, hein, un collectif d'associations empruntant des chaises, voilà, pour dénoncer l'évasion fiscale des grands groupes financiers et bancaires. Alors juste un petit mot comme ça à ces militants, n'hésitez pas à venir à France Info, hein, nos chaises ne sont pas des plus confortables, donc vous pourrez vous servir. Aujourd'hui à Dax comparaissait donc John Pallet, un drôle de nom, mais c'est surtout un militant ayant dérobé une chaise, voilà, dans une succursale de la BNP en 2015. Alors qu'il risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, la juge a renvoyé la décision au 23 janvier. Le procureur a estimé qu'il faudrait une dispense de peine, mais ces chaises sont devenues un symbole. Eva Joly, avocat de John Pallet.
Pour moi, ceci signe clairement que la BNP n'a pas compris que le monde a changé et que sa pratique d'aide à la défiscalisation ou à l'optimisation fiscale, comme ils disent pudiquement, mais qu'en réalité est l'aide à la fraude fiscale pure et dure, ce temps-là est révolu. Et nous pensons que nous allons convaincre le tribunal.
Voilà, Eva Joly, avocate de John Pallet. Alors, Lumna Melian, c'est vrai qu'on a vu, il y avait quand même du monde hein, devant, il y avait quand même près de 20 000 personnes, il y avait un petit côté intermondialiste aussi devant, c'est-à-dire que c'est devenu un symbole, ces chaises. Aujourd'hui, véritablement.
Mais ce qui est important, alors fiscale. C'est bien qu'il y ait des mouvements voilà, citoyens, les gens se mobilisent, c'est toujours, ça met toujours les responsables, ça met les politiques face à leurs responsabilités, mais sans le militantisme n'a de sens que s'il y a un débouché politique. Et le combat que mènent les faucheurs de chaises,
c'est... Ça va être dur de le raccorder à Valls, cela. Mais, je vous écoute très attentivement. Très attentivement.
Je vais pas le raccorder à Valls.
Il y a le numéro d'équilibriste qui va se jouer.
Exactement. Allez-y. Donc, alors j'en étais oui. Le militantisme n'a de sens que s'il y a un débouché politique. On peut pas dire que ce gouvernement n'a rien fait sur l'exil fiscal. Il y a un certain nombre de lois et de textes de loi qui ont été votés. C'est cette année, en 2015, ça représente, je crois, plus de 12 milliards de recettes fiscales qu'on a récupérées. C'est 48 familles depuis 2013. 48 000
familles. Dites au pif, de toute façon, on vérifiera pas.
Si, c'est 48 000.
Moi, j'aurais dit 60 000.
C'est 48 000 Français qui ont remis leur compte en France. Donc, il y a des choses qui avancent. Je pense que ce mouvement doit continuer à exister parce que ça met les politiques face à leurs responsabilités. Mais à la différence, je pense que si la droite passe, ils peuvent enlever toutes les chaises qu'ils le souhaitent. À un moment, la droite continuera pas ce combat sur l'exil fiscal.
Et en même temps, Eric Woerth, c'est lui qui a mis en place justement ce guichet pour accueillir justement des gens qui voulaient réguler leur situation par rapport
mais
à la Suisse.
Les chiffres, on les voit depuis... ouais, je suis d'accord, mais les chiffres depuis 2013, on voit une vraie... voilà, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Il y a un travail qui a été fait par le gouvernement parce qu'on n'arrête pas de critiquer le gouvernement en disant rien n'a été fait.
Ah bah, l'ennemi, c'était la finance.
Sur cette question de l'exil fiscal, je crois qu'on n'a pas à rougir.
Alors, Guillaume Meurice.
Si, vous avez à rougir, arrêtez, sans déconner.
Alors, je vous écoute.
Bah non, mais il y a plein de promesses de campagne. Bah, il y a le fameux « mon adversaire, c'est la finance » qui a fait beaucoup de mal, effectivement. Et c'est bien que des il y a un petit peu de mépris quand même de votre part quand vous dites c'est bien qu'ils fassent leur petit truc dans leur coin, mais faut pas oublier que
non la seule la sens à ce qu'ils font. La Moi, seule solution en fait activiste et heureusement que le politique donne du sens à
vous auriez
combat.
Dû peut-être y rester tout je pense que la vraie le vrai changement de société c'est la société civile qui va la faire. Et c'est ces gens-là, quoi.
Donc
c'est
ce genre d'action, par exemple.
Évidemment, c'est de la désobéissance civile, pacifiste. C'est exactement ce que fait Cédric Héroux, par exemple, dans la vallée de la Roya, qui a exactement le même problème. C'est exactement les gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui, à un moment donné, se disent, merde, ce monde, il peut plus continuer comme ça. J'en fais partie, je suis là, qu'est-ce que je fais? Et ça montre bien aussi que les gens croient plus, de moins en moins en politique, quoi.
Parce que
c'est ces actions-là qui ont de l'impact maintenant.
Michel Urvois.
Moi, je trouve qu'on mélange beaucoup de choses. Ce gouvernement a fait des choses. C'est clair, il a fait des choses, il y a plus de transparence, les peines sont plus sévères, il y a des juges spécialisés qui ont été nommés, etc. Il y a des échanges d'informations entre pays. Il a fait des choses, il n'a pas fait assez, il a fait des choses. On mélange des choses parce que on mélange ce qui est de la fraude en France et à l'étranger, et ce qui est de l'optimisation en France et à l'étranger.
Tout à fait.
L'ensemble, ça donne, on appelle ça de l'évasion, mais il y a de l'évasion qui est illégale. Il y a de l'évasion qui est, je dirais, immorale.
C'est ce dont parlait Eva Joly.
Les deux sont immorales.
J'ai bien écouté ses propos, elle mélange les...
Elle parlait optimisation fiscale, c'est ça en fait.
C'est parce que les deux sont immorales en fait.
Bien sûr, la fraude,
donc, c'est
elle est encore
qu'on
plus.
Les mélange entre guillemets,
elle
on
est
en
encore
parle
plus.
Ensemble.
Mais quand on parle des paradis fiscaux, c'est une partie des choses. Il y a de la fraude aussi en France.
Ah, donc, il y a plein de manières de frauder, on est d'accord.
Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Et quand une banque optimise, ça ne veut pas dire qu'elle fraude. Elle est en conformité avec la loi. Dans ce cas, il faut faire évoluer la loi. Et il faut la faire évoluer de préférence au niveau international, en tout cas européen.
Raphaël Stainville, on voit en effet qu'il y a des efforts, et même alors presque au niveau européen, c'est-à-dire que le secret bancaire suisse qui a un peu de plomb dans l'aile, on voit il y a des révélations, on a vu Panama Papers, SwissLeaks,
LuxLeaks. Mais à quel prix, c'est voilà, ça, c'est il y a des gens qui sont obligés de prendre leurs responsabilités.
Mais par exemple, quand on voit Michel Sapin qui ne fait pas payer Apple, comme en Irlande, vous savez, qui ne fait pas payer ses savoirs d'impôts à Apple, parce que ça crée aussi des emplois. Donc on sent que il y a quand même dedans, pour faire véritablement avancer les choses, il faut encore que les mentalités bougent.
Ce qui est certain, c'est que dans ce combat qui est d'abord un combat médiatique, et on le voit, les banques, les institutions financières ont perdu à l'avance. C'est qu'il y a une nouveauté aujourd'hui, c'est que ces mouvements de contestation civiques ou prenant la désobéissance civile ont toujours raison contre les politiques ou les institutions économiques.
Vous ne pensez pas que ça peut faire avancer une petite chose véritablement?
Non, moi je crois pas. Je crois que d'un point de vue médiatique, il n'y a pas de match. Mais ça ne va pas changer les choses dans le fond et que ça va ni empêcher la BNP Paribas et d'une certaine manière, enfin.
Ça veut dire que la politique sert à rien si elle écoute plus les citoyens.
Aujourd'hui, la politique faite par Eva Joly et John Pallet, je pense que ça sert pas à grand chose.
Vous pensez pas qu'il y a un ras-le-bol général des Français.
Je ne dis pas qu'ils mettent pas l'accent sur un certain nombre de faits. Mais
qui se contente aujourd'hui, qui va aller interroger les gens dans la rue, demander-leur l'évasion fiscale, est-ce que ça vous pose un problème? Qui va vous dire non, je m'en fous, 60 milliards d'euros qui se barrent dans la nature.
Bien sûr que personne s'en fout. Mais il y a eu une pression législative ces dernières années, ces derniers mois. Je pense qu'il y a un effort qui a été fait et il faut qu'on continue. Je ne veux pas dire que ça suffit.
Mais évidemment, on se demande pourquoi vous avez attendu autant. C'est la priorité.
Ah non, on a commencé dès le début du mandat. Pour le coup, la gauche, quand elle est arrivée au pouvoir, c'est une des premières choses qu'elle a faites. Donc,
scission entre les banques de dépôt et les banques de...
Elle a proposé une banque d'investissement pour aider, pour accompagner.
Il y a eu un mauvais exemple avec Jérôme Cahuzac, ça on peut dire, C'est ça qui est...
Mais en tout cas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça a suscité l'affaire Cahuzac. Voilà, on s'est dit que maintenant, ces questions, il faut les prendre au sérieux.
Mais
il faut
en arriver là, quoi.
Non.
C'est quand même ouf, il faut en arriver là, il faut avoir un ministre du budget qui a un compte en Suisse.
Tomber dans la caricature, je veux dire, l'être humain, il peut être défaillant. Personne est irréprochable. Et quand on lui pose
c'est
la question,
que par mégarde, on peut ouvrir un compte en Suisse sans faire rien. Ça m'arrive tous les jours.
Personne n'est irréprochable. Et quand on lui pose la question, il dit, et on a encore revu hier soir dans le reportage, il dit les yeux dans les yeux qu'il n'a pas de compte en Suisse. Donc on peut quand même avoir confiance en gens et considérer que ce qu'il vous raconte, c'est la vérité.
Bon, vous parlez du reportage. Je précise juste aux auditeurs, le reportage de France 2, les enfants terribles de François Mitterrand. Et tout arrive.
Donc personne n'est irréprochable. Nous-mêmes, nous avons fait le nettoyage chez nous. Nous avons mis un certain nombre de règles en place, y compris sur la transparence, sur la déclaration de patrimoine. Et on a légiféré sur la question de l'évasion fiscale. J'y vais y arriver.
Ouais, on va y arriver.
Donc non, je crois qu'on
mais
a...
Mais tout arrive, vous savez, le Damien, puisque hier, dans le JDD, on apprend que Patrick Balkany aurait avoué avoir eu des comptes offshore. Donc vous voyez, finalement,
justement,
tout
ce genre
arriver.
D'initiative, je pense que c'est important qu'elle continue ce genre d'initiative. Ça met tout le monde face à leurs responsabilités. À un moment, ça met la pression. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai commencé à militer en mettant la pression dans la rue, en me disant que peut-être on va être entendu.
Quitte Eval, vous allez retourner dans la rue. Vous êtes plus
allé. Je peux faire les deux.
L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
2000 à 1800 militants écologistes et de gauche dans les rues de Dax pour soutenir John Pallet, le militant altermondialiste comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour avoir volé des chaises dans une agence parisienne de la BNP en octobre 2015. Il voulait ainsi dénoncer des faits de fraude et d'évasion fiscale de la part de la banque. Le jugement a été mis en délibéré. Nouvelle mobilisation des salariés de Fessenheim demain matin. L'intersyndicale les appelle à manifester contre la fermeture anticipée de la centrale nucléaire alors que se tiendra un comité central d'entreprises en région parisienne. Les syndicats dénoncent notamment le montant de l'indemnisation que l'État doit verser à EDF au moment de la fermeture prévue en 2018. La carte des 7500 bureaux de vote de la primaire mise en ligne ce soir par le Parti Socialiste en métropole et en Outre-mer. 7500 bureaux, c'est 2000 de moins qu'il y a 5 ans, 3000 de moins que pour la primaire de la droite en novembre. Le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier prochains. La ligne B du métro partiellement interrompue à Toulouse après une rupture de canalisation. La station Saint-Agne est sous l'eau. Les dégâts sont importants. La circulation du métro devrait reprendre sur l'ensemble de la ligne après-demain, à l'exception de la station Saint-Agne donc. Et puis il avait déjà le ballon d'or. Le portugais Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur de l'année 2016 par la FIFA. L'attaquant de 31 ans est récompensé pour sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid et puis à l'Euro avec sa sélection.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Loumna Méliane, conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de Manuel Valls, Michel Urvois de Ouest France, humoriste Guillaume Meurice et Raphaël Estainville de Valeurs Actuelles. Il nous resterait peu de temps pour parler d'un sujet dont on parlera beaucoup, beaucoup jusqu'en 2018. Hein, voilà, puisque Anne Hidalgo, hier, a présenté un nouveau plan de circulation pour sa ville, dont elle est maire Paris, et déjà en délicatesse avec la région, certaines villes d'Île-de-France et des associations d'automobilistes. La maire de Paris a décidé de passer à la vitesse supérieure. Mais en voiture électrique, on vous rassure. Trambus, hein, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Rue de Rivoli, devant le jardin des Tuileries, interdit aux voitures. Pardon. Et d'autres aménagements pour, je cite, diviser par deux la place de la voiture individuelle polluante. Donc des nouvelles mesures qui font déjà polémique. Tout ça devrait être appliqué dans deux ans. Michel Urvois, on voit que là, la maire de Paris a décidé d'accélérer véritablement les choses. Hein.
Bah, elle fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Ouais. Ça pose des questions, ça pose la question de la cohérence entre ce que peut décider une ville-centre, une métropole, là on parle de Paris, mais c'est vrai dans toutes les grandes métropoles Exactement. Françaises, avec donc les communes voisines, les périphéries. Donc il faut une cohérence. Il faut que si on empêche la circulation dans la ville-centre, il faut qu'il y ait des parkings relais, il faut qu'il y ait des transports accessibles, il ne faut pas qu'il y ait de rupture de charge entre transports, il y a tout ça, et il faut qu'il y ait une pédagogie, parce que l'abandon de la voiture, c'est un truc très compliqué, même si ça coûte beaucoup plus cher de circuler en voiture, même si ça coûte 3-4 000 euros par an pour une voiture moyenne, là où les transports en commun vous en coûtent 800, je crois, c'est très compliqué d'abandonner sa voiture.
C'est ça. Donc, alors, c'est là où, Loup d'Amélienne, c'est là où on voit la chose. On sait qu'en ce moment, il y a un petit combat.
J'ai pas parlé du bilan écologique. Hein.
Non, mais alors ça, justement, le bilan écologique et puis surtout le bilan aujourd'hui sanitaire, hein, puisque les particules fines feraient 40 000 morts par an en France. Loup d'Amélienne, est-ce qu'Anne Hidalgo, finalement, elle a raison de... On lui reproche souvent de passer en force. Est-ce qu'elle a raison de faire ça en force ?
Alors, moi, j'ai beaucoup de respect. Hein. C'est quand même une des rares mères femmes d'une grande ville en France.
La capitale.
La capitale. La pollution, c'est quand même la troisième cause de mortalité en France. Hein. Ça représente 1,7 milliard pour la sécurité sociale par an. Ça fait partie d'une des priorités. Excusez-moi, je vais encore le dire, de Manuel Valls, puisqu'il propose de faire
l'écolo,
la santé.
Comme on l'appelle,
non, non, non.
Manu
la santé, non, c'est plus sérieux. Il propose que la santé environnementale soit une grande cause nationale, puisque la pollution de l'air.
Passer en force. Est-ce que finalement il y a beaucoup de gens qui lui reprochent, notamment des maires adjacents,
la Grande Couronne et Île-de-France,
de dire comment Paris peut imaginer faire ça tout seul alors qu'on est juste à côté.
Est-ce que je pense qu'il faudra de toute façon qu'il y ait un débat aussi pas que parisianisme. C'est ça le vrai problème
en fait.
C'est qu'on a l'impression que tout est décidé par Paris. Il faudra qu'il y ait un débat avec la grande métropole puisque de toute façon il y a aussi la question des transports. Il y a une grande mutation sur les transports qui est en cours. Donc tant qu'on ne réglera pas la question des transports, on ne pourra pas régler la question de la pollution. C'est bien sympathique de dire qu'il y a la circulation alternée. Moi, je joue le jeu à chaque fois parce que c'est important. Parce que je vois mes enfants qui ont du mal à respirer. Moi, j'ai deux petites filles. Je vous disais, la pollution, c'est quand même la troisième cause de mortalité. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est tous les perturbateurs endocriniens. On a des jeunes filles qui sont atteintes d'endométriose, qui est une maladie extrêmement grave. Pendant des années, on a expliqué qu'aux femmes, si elles avaient mal parce qu'elles avaient leurs règles, c'est parce qu'elles avaient la règle. En fait, non, c'est une grave maladie. Donc, oui, mais pour ça, il faut des transports. Tant qu'on n'a pas développé les transports sur la Grande Couronne, ça va être difficile, très difficile.
Guillaume Meurice, vous en pensez quoi justement d'un plan d'imaginer Paris divisé par deux au niveau de la voiture ?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? La voiture à Paris, c'est une saloperie infinie.
Alors, partout, là, on parle de Paris parce que c'est.
Lyon est concerné.
C'est Anne Hidalgo qui lance, mais c'est bien sûr Grenoble, Lyon, également toutes les autres villes de France. C'est imaginer une France avec la voiture divisée par deux ?
J'imagine même divisée par quatre ou cinq, oui, évidemment. Moins il y a de voitures, mieux c'est. Encore faut-il développer les transports en commun. C'est vrai que là-bas, c'est un débat très parisien-parisianiste.
Si
on parle en termes de RER, par exemple, c'est vrai qu'il y a
les
RERC, voilà. Il y a une fois sur deux, il ne marche pas. C'est un vaste bordel. ville. Peut-être oui, d'abord développer les transports et faire en sorte qu'ils marchent mieux. Et après, parce que forcément, les gens gueulent, ils disent, bah, on va au boulot comment? Et oui. on peut pas leur donner des torts. Donc, il faut des alternatives.
Mais la question, c'est beaucoup moins l'objectif ou l'horizon vers lequel veut tendre Anne Hidalgo que la manière, la brutalité à laquelle elle procède.
Ah, bah, pour une fois qu'une socialiste tient ses promesses, on va quand même pas faire la fine bouche.
Non, mais parce que là, elle s'adresse aux Parisiens et aux derniers Parisiens, aux dernières familles qui peuvent encore se promener dans Paris. Mais pour tous les autres qui ont depuis longtemps fui Paris pour la banlieue.
Alors, ça devient de plus en plus compliqué. Parisiens, les maires de Paris.
Hein. Non, mais d'accord, c'est une facilité. Sauf que justement, elle a tendance à considérer que Paris vit sans intercommunauté avec les autres villes de banlieue. Et ça, c'est plus problématique. C'était déjà le cas avec les voitures diesel de je sais plus quelle année qu'elle a supprimé de la circulation à Paris. Ça pénalise un certain nombre de gens.
Donc ce nouveau plan est prévu en tout cas pour 2018. Donc on en reparlera. Les informés de France Info. Ça doit se terminer. Merci beaucoup à Lumna Mignan d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci à Guillaume Meurice. Vous êtes demain au Café de la Gare à Paris pour votre spectacle. Oui. Et on vous retrouve bien sûr sur France Inter dès 17h.
C'est ça,
toujours. 17, hein, c'est toujours le même. Voilà. Ouais. Pour si tu écoutes, j'annule tout. Un petit coup d'œil à nos partenaires. La une de West France demain.
Vous voyez comme c'est compliqué le débat sur la voiture puisque PSA recrute 400 personnes à Rennes.
Exactement. Voilà. Donc
et on parlera aussi de la primaire. Et bien sûr. En donnant le mode d'emploi détaillé et définitif.
Merci tout sauf voter Valls.
Raphaël Saint-Ville.
Et on fera notre une jeudi prochain sur François Fillon.
François Fillon.
Seul contre tous.